en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'analyse scientifique du séisme et du tsunami qui ont touché le site de Fukushima au Japon prendra plusieurs années. Mais un constat peut d'ores et déjà être fait sur la sous-estimation des séismes dans cette zone géographique. Pourquoi ? Eh bien, nous vous proposons les explications dans cette conférence du Bureau des longitudes de Rolando Armijo et Hélène Hébert. Ils nous détaillent les raisons de nos faiblesses dans la connaissance du plancher océanique et sur nos limites technologiques pour prévenir au maximum l'arrivée des tsunamis. Rolando Armijo est sismologue à l'Institut de physique du globe de Paris, IPGP, et puis Hélène Hébert est géophysicienne et spécialiste en simulation des tsunamis au Commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Pour suivre au mieux leurs interventions, nous vous conseillons de télécharger les supports visuels de leur communication. Ils sont bien sûr disponibles sur le site de Canal Académie. On écoute sans plus tarder Rolando Armijo.
Le sujet, bien sûr, ce sont les séismes et les tsunamis du Japon. Je vais surtout parler de la sismicité, de la façon de mesurer le tremblement de terre et comment on peut quantifier ce qui s'est passé pendant le tremblement de terre, en particulier le déplacement, le glissement qui s'est produit sur la faille et qui est une chose qui n'était pas prévue. La quantité de glissement, comment ça s'est distribué, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Mais ma première diapositive montre la fameuse grande vague de Kanagawa, de Hokusai. C'est parce que, et c'est même pas un tsunami ça, apparemment, mais c'est pour évoquer que le problème majeur, c'est que la mauvaise considération de la sismicité dans le coin a dérivé sur une mauvaise estimation de ce qui pouvait se produire en termes de tsunami, et c'est là qu'il y a eu le plus grand désastre. Après les séismes de Kobe en 1995, les Japonais ont fait un effort très considérable pour essayer de quantifier l'aléa sismique de la région. Celle-ci, c'est une carte qui représente les caveaux tectoniques. Vous voyez la zone de subduction, c'est-à-dire le contact entre les différentes plaques. Ici, il y a plusieurs plaques en jeu. Il y a la plaque asiatique, il y a la plaque philippine, la plaque Pacifique, et enfin une microplaque appelée Okhotsk. Le tremblement de terre a eu lieu dans cette partie-là, entre la plaque Pacifique et la plaque d'Okhotsk. Mais vous voyez qu'il y a d'autres régions ici, et en particulier, ça c'est déjà une représentation de l'aléa sismique pour le Japon, et vous voyez que les zones rouges sont surtout celles qui sont en face du sud du Japon, du sud-ouest du Japon, et pas la zone là où le séisme s'est produit. Si on regarde ça dans le détail, il y a ce qu'on appelle ici un point triple, c'est-à-dire qu'il y a trois plaques qui se rencontrent, c'est une complexité, et puis ensuite il y a un contact de plaques qui se continue vers le nord-est. La carte qui est à droite, c'est le résultat de 10 ans de recherche des Japonais après le séisme de Kobe, qui a abouti à une carte officielle de l'aléa sismique qui est dérivé en plusieurs cartes. Celle-ci, c'est une qui représente toutes les sources possibles de tremblement de terre, et notamment beaucoup des failles qui sont à terre, similaires à celles de Kobe, qui ont finalement été prises en compte. C'est un gros effort qui a été fait. Et vous voyez aussi, vers la partie nord du Japon, tout un tas de secteurs qui sont délimités ici dans la zone verte, desquels on va parler plus tard, qui est la segmentation de la zone de subduction qui a rompu pendant le dernier tremblement de terre, les très gros. Alors, vous voyez que tout ceci est très détaillé. La diapositive suivante représente la probabilité d'occurrence d'un tremblement de terre avec une intensité supérieure ou égale à 6 dans les prochains 30 ans, à partir de 2005. Et vous voyez que ici, là, vous voyez des chiffres qui sont tout petits, jaunes, dans le secteur, donc l'intensité attendue, était vraiment, la probabilité d'une intensité moyenne ou forte, était vraiment petite, de l'ordre de 0,1%. Alors pourquoi cela ? Et non, je vais essayer d'introduire un autre problème, et j'empiète un peu sur le sujet d'Hélène. Ceci est la centrale de Fukushima. La centrale de Fukushima, que vous voyez ici, était en construction. Vous voyez les 4 réacteurs principaux. Et ensuite, ici, le 5 qui vient d'être terminé, le 6 est en construction. Ceci se passe dans les années 70. Cette photo, elle a dû être prise en 1980, à la fin. Voici une carte topographique de la même chose, orientée nord-sud comme il faut. Et puis, vous voyez les 6 réacteurs représentés ici. Vous voyez qu'il s'agit d'une côte montagneuse. Ici, il y a les courbes des niveaux. Vous voyez que ce système a été entaillé. C'est un système haut qui a été réduit en hauteur pour aboutir à une construction de la centrale et surtout l'interface entre les réacteurs et la mer à très basse altitude. Voici le résultat du tsunami qui a été observé. Ceci est calé par la montée des eaux ici et ici derrière la centrale, précisément. Cette carte montre que la centrale était construite à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Vous voyez ici une autre photo qui est prise en oblique d'avion. Et vous voyez que, si vous mettez les choses à l'échelle, en gros, le plancher ici, il est à 7 mètres au-dessus du niveau de la mer, alors que le plateau derrière, vous voyez ici, c'était au-dessus de 20 mètres, au-dessus de 40 mètres. Et tout ça, ça a été taillé. Vous voyez ici les fronts de taille qui sont très précis. Donc, c'est une réduction, c'est un choix délibéré de faire les choses comme ça. Voici encore une image prise à Google Earth. C'est juste avant le tremblement de terre et le tsunami. Vous voyez ici les entailles qui sont derrière. Vous voyez une route qui descend. Vous voyez une autre route qui descend. Et tout ça, c'est donc dans la partie inférieure. Tous les réacteurs. Photo le jour après. Voici tout dévasté. Et vous voyez la marque de l'eau ici enfoncée avec plein d'objets. On va voir ici un close-up face à la falaise. Vous voyez ici le niveau de l'eau qui monte, qui est monté par là, les niveaux des vagues. Et ici, vous voyez parfaitement où ce niveau-là est arrivé pour couper la route. Donc, le tsunami, il est venu par là. Il a fait 10-12 mètres d'altitude. Maintenant, on va voir un autre détail qui va voir quelle était la profondeur d'eau au niveau de la centrale. Ce sont une série des prises de vue qui ont été prises d'un petit balcon d'ici. Là, vous voyez la mer. Vous voyez ici le réacteur 4 et une cheminée qui a une structure métallique très reconnaissable sur les photos qui vont suivre, ainsi que ces deux bassines blanches que vous verrez immédiatement, vous reconnaîtrez immédiatement au premier plan. Voici donc les deux étangs blancs et voici les pieds de la cheminée, la structure métallique. Le réacteur 4, il est par là, en bleu. Vous voyez le tsunami qui commence à entrer. Ceci se passe à peu près une heure après le tremblement de terre. Vous le voyez, comment il rentre. Et il y a des voitures ici qui sont garées. Vous allez voir le destin des voitures. Voici, elles commencent à être de plus en plus ennoyées. La mer est là, qui commence à bouillonner partout. Vous la voyez là entrer complètement. La voiture blanche, elle est ici, importée par l'eau. Ensuite, vous la voyez ici. Le premier étang blanc, il a disparu. Et de l'autre, il ne reste qu'une petite rambarde en eau. Maintenant, la suivante, vous voyez presque plus de voitures, plus rien. Et tout est nivelé ici. Tout ce qui est barrière anti-tsunami sont complètement ennoyés. Et vous voyez le dégât aussi sur tout ce qui est central. Maintenant, l'eau se retire. L'eau se retire. Et une fois que ça se retire, vous voyez la dimension de la voiture. En gros, il y avait au moins 5 mètres de colonne d'eau au niveau des réacteurs. Vous voyez comment les genres de dégâts que cela a pu faire. C'est évident donc qu'il y a eu un gros problème de sous-dimensionnement et la magnitude probable d'un tremblement de terre, d'un tsunami, a été mal estimée. Pourquoi ? Je vous propose 3 pistes qui semblent être importantes. La première, la perception de tsunami et de tremblement de terre qui a été faite à l'échelle locale sans comparer vraiment avec ce qui se passe à l'échelle mondiale ou sur des périodes de temps plus longues. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, un problème de consensus entre scientifiques. Et là, malgré l'effort des Japonais qui est très important, il y a eu un consensus entre scientifiques japonais et internationaux pour se mettre un peu d'accord sur le fait qu'il y avait tout un tas de concepts qui maintenant, si l'on peut dire, tombent à l'eau parce qu'ils ne marchent pas et il faut les laisser tomber. Et en particulier, le comportement mécanique de quelque chose qui est un peu familier des géologues, c'est le chevauchement frontal, la partie la plus frontale du chevauchement de subduction, que l'on supposait avoir certaines caractéristiques mécaniques. Il n'en est rien. C'est pas comme ça que ça se comporte. Finalement, les modèles utilisés. Bien sûr, on est capable de produire des modèles qui sont très sophistiqués, très bien établis. On peut jouer avec beaucoup de paramètres. Ils sont vraiment complexes. Mais apparemment, nous avons eu un excès de confiance sur ces modèles et nous avons abouti à des conclusions qui étaient un peu hâtives. Et je vais vous montrer seulement un exemple de ceci. Mais il est important de remarquer que la politique industrielle, comme la construction de Fukushima et tout le reste, était cohérente avec le consensus scientifique de l'époque et postérieure. C'est-à-dire, on ne peut pas trop jeter la pierre aux industriels ni aux politiques. Voilà la sismicité pour ce type de tremblement de terre qu'on appelle le tremblement de terre des géants. C'est tout l'enregistrement depuis le début du XXe siècle, depuis 1900. 16 tremblements de terre de magnitude supérieure à 8,5. Ils sont tous de ce type-là, mégathrust, séismes géants qui se produisent sur les zones de subduction par rupture totale du système de subduction. Si vous regardez ici, c'est très difficile à voir. Le tremblement de terre magnitude 9 du Japon se classe en 4e position. Mais juste en 5e position. En première position, il y a le tremblement de terre du Chili de 1960, le tremblement de terre de 1964 en Alaska, le tremblement de terre de Sumatra 2004 et 4e position, donc le Japon 2011. 5e position, Kamchatka, magnitude 9 en 1952, donc. Et on va voir où ça se passe. C'est un tremblement de terre très similaire, avec un tsunami géant, avec exactement le même type de caractéristiques, et qui s'est produit en 1952. Où vous voyez ici une image Google Earth, peut-être vous pratiquez ces logiciels sur vos ordinateurs. Vous voyez ici la zone de subduction qui nous concerne. Et ça, c'est l'autre zone de subduction qui a beaucoup préoccupé les Japonais et continue à être sujet de préoccupation parce que d'autres tremblements de terre peuvent se produire ici. Mais celle-ci, elle est particulièrement bien marquée, cette zone de subduction. Et le tremblement de terre de Kamchatka, il s'est produit là. Vous voyez ici la longueur de rupture, c'est un magnitude 9 sur cet objet-là. Maintenant, on regarde la continuation de cet objet. Celui qui vient de se produire, c'est celui-là. Pourquoi n'a-t-on pas imaginé que ce type d'événement pouvait se produire similairement à celui-là? Quand on présente les choses comme ça, c'est évident. Mais on a confondu beaucoup de choses. Parmi les concepts qui peuvent être critiqués, je vais essayer de développer ça à partir de la sismicité. La sismicité est représentée ici pour le secteur qui a rompu. Vous voyez les répliques du dernier tremblement de terre. Donc, ça dessine la zone de rupture du tremblement de terre. Et vous voyez les séismes intérieurs qui étaient bien connus. En gros, chaque zone de rupture est délimitée ici par du pointillé, des secteurs pointillés. Ils sont tous relativement petits. Et ici, voici la liste des concepts que je pense être critiquables. Premièrement, un séisme de tsunami qui a été pris comme exemple, c'est le séisme de Sanriku, 1896. Ce séisme, on a proposé que c'est un séisme qui fonctionne tout à fait seul et qui rompt que la partie frontale du chevauchement. Ça, ce n'est pas un problème. Il y a des séismes qui fonctionnent comme ça. Mais il y a un corollaire qui a été tiré et qui n'est pas juste. Et c'est que cette partie-là pourrait fonctionner seule et avoir un système de charge seul et ne pas rompre autrement que comme ça. Donc, sans faire des grands dégâts. Il a fait quand même un tsunami qui était très considérable, mais vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Donc, un autre problème qui est assez important, c'est le concept de couplage partiel, qui a été évalué à être 10 à 20% du couplage total, c'est-à-dire la convergence entre les plaques. Comment on obtient ça? On compare la somme de tous les séismes, le moment sismique de tous ces séismes, et on compare avec le moment sismique auquel on s'attendrait si toute l'énergie était dissipée par des tremblements de terre et celle qui est déduite de la convergence entre les deux plaques. Or, c'est ça, ce n'est que 10 à 20%. Donc, on imaginait que cette zone de subduction n'était pas très efficace. Le problème, c'est la fenêtre temporelle. Elle est trop courte. Donc, il fallait attendre un peu plus pour faire ce genre de calculs. Maintenant, tout change. Et finalement, le problème de déduire à partir de ça qu'il était possible d'avoir une rupture partielle de cette zone de subduction, c'est-à-dire exclure la possibilité d'une rupture totale, chose qui est, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir que des ruptures de ce type, et pas une rupture qui ferait cette dimension qui est celle qui a été observée. En gros, les scientifiques ont se centré sur les branches et pas sur le tronc de l'arbre. Le système en sa totalité n'était pas considéré. Or, voici un tout petit peu le détail de la sismicité. Là, il y a 37 années de sismicité compilées récemment. Vous voyez ici beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est un film, une animation qui va défiler. Là, il y a l'ombre de séisme qui s'est produit finalement, qui va disparaître. Et on voit plusieurs éléments qui montrent, en gros, que la rupture elle s'est produite entre ces séismes-là, la rupture de ces séismes-là qui s'est produite en 1994, et une frontière des plaques qui est ici. Voici maintenant tous ces séismes qui se produisent. Vous voyez qu'il y a des séismes assez considérables. Hein. Ici, vous verrez un qui remplit avec ses répliques, un autre ici avec des répliques, à chaque fois suivi par des répliques qui dessinent à peu près la zone de rupture. Il y a un très gros qui s'est produit par là, un autre qui est assez considérable là, qui sont des magnitudes 8.3. Donc, cette zone ici, au nord, des grands séismes de magnitude 8.3. Ici, partout, des séismes qui sont des magnitudes bien plus petites. Et finalement, l'exclusion de la possibilité d'une rupture de ce type. Maintenant, vous allez voir comment s'est développé le séisme principal et d'abord les précurseurs, toute la sismicité qui est associée pendant 6 jours seulement pour le tremblement de terre du 11 mars. Donc, l'animation va montrer d'abord un précurseur qui s'est produit 2 jours avant, des magnitudes 7.3, puis très proche, le choc principal, et ensuite vous allez voir comment tout cela se remplit des répliques en 5 jours. Voici les précurseurs, avec ses propres répliques, un petit moment de silence, et le gros séisme ici qui commence à remplir toute la partie qui a été rompue par le choc principal. Voilà, donc en 6 jours, tout est parfaitement éclairé. Voici la version réactualisée en 2009 pour la zonation sismique des différents segments qui pouvaient rompre dans la région de Fukushima. Vous voyez Fukushima 7.4, d'autres tremblements de terre de magnitude très petite, et tout cela coupé par des petits morceaux. C'est un petit morceau qu'on imaginait que ça allait rompre, donc tout le monde s'attendait à un petit tremblement de terre. Or, la rupture que vous voyez ici représentée par la déformation du plancher océanique, c'est beaucoup plus grand. Alors, si vous transposez ça ici, c'est le type d'ombre qu'on a fabriqué tout à l'heure. C'est un tremblement de terre qui a un ordre de grandeur de différence et qui recouvre tous les petits morceaux qui avaient été prédécoupés de façon erronée comme maximum possible pour la rupture du tremblement de terre. Donc, c'est l'idée qu'on se fait à l'heure actuelle. Une rupture de la zone de subduction, ici, c'est en vue un coupe. Un séisme géant de magnitude 9. Rupture totale de la zone de subduction, cela veut dire une largeur de rupture d'environ 200 km entre la partie qui arrive à la fosse et puis ensuite la partie profonde qui va au-delà des 40 km de profondeur. Et tout cela a rompu sur donc 200 et km de largeur, 500 km de longueur le long de la fosse. Et vous voyez ici la représentation des répliques. Voilà l'image qu'on se fait. Maintenant, les données les plus récentes et qui ont été très originales, parce que ce tremblement de terre est le meilleur étudié, il va continuer à l'être, parce qu'il y a des réseaux sur le plan local, il y a beaucoup d'instruments qui permettent de l'étudier dans le détail. C'est pour cela que maintenant on a des images très précises. Ce sont des exemples. Ça, c'est un réseau d'observation des stations GPS continues qui permettent de voir le déplacement cosismique, dans ce cas-là, duquel on déduit toutes ces stations se sont déplacées vers l'océan et de cela on peut déduire la quantité de glissements sur la faille en profondeur qui est représentée par ces courbes des niveaux. Vous voyez la courbe des niveaux la plus haute, c'est 24 mètres. Ici, ce qui est représenté, c'est un mouvement qui s'est poursuivi. Ceci, c'est simplement les quelques jours après le tremblement de terre principal. Cela a continué à bouger et a produit ce qu'on appelle un mouvement post-sismique qui s'est continué en profondeur de la faille pour lesquels les contours du déplacement ont aussi été calculés d'un maximum d'autour d'un mètre. Mais ce n'est pas tout. Il y avait aussi des mesures qui ont été faites de façon directe sur le plancher océanique. Celle-ci est vue de la côte, mais vue de beaucoup plus près, sur le plancher océanique, il y avait aussi quelques instruments, des bouées reliées, mesurées par GPS, qui ont permis de voir qu'il y avait un déplacement du fond marin qui était déjà des 24 mètres, et puis qui se sont soulevés de 3 mètres. Donc cela veut dire que le glissement sur la faille, près de la fosse, était bien supérieur. Peut-être de l'ordre de 30-40 mètres ou au-delà de 30-40 mètres. Donc exactement l'opposé de ce que l'on croyait. La partie près de la fosse ne devait pas glisser. Elle a beaucoup glissé, énormément. Ça, c'est un autre type d'observation qui est aussi obtenu depuis la terre ferme. Ce sont les enregistrements sismologiques de type mouvement fort. Voici les types d'enregistrements. Je ne vais pas vous décrypter comment ces choses-là sont lues, mais voici la déduction qui en est faite. Une carte des glissements, c'est pareil. On déduit une carte des glissements à partir de ces données, combien a glissé chaque point de la faille en profondeur. Et vous voyez, ça s'appelle slip en anglais, donc on arrive à quelque chose comme 30 mètres aussi, et beaucoup près de la côte. Caractéristique, les sismologues ont pu déterminer aussi, c'est que quand on regarde l'évolution temporelle, vous voyez ici en secondes, la rupture démarre ici, ça c'est à 10 secondes, ça c'est à 40 secondes, la rupture s'est propagée vers le bas. Et ensuite, elle semble s'être propagée vers le haut. Donc une espèce de balancier, entre, ça c'est 40 secondes, 60 secondes, 75 secondes et au total 120 secondes. C'est la durée de la dislocation sur le plan des failles et qui, semble-t-il, a balayé deux fois tout le plan des failles entre des profondeurs de 40 km et la surface. Donc on commence à voir beaucoup de détails. À partir des données des tsunamis aussi, des bouées, Hélène va vous en parler, on a des modèles aussi, on peut déduire, mais mal, avec très peu de résolution, où est-ce qu'il y a beaucoup de glissements sur la faille, on le sait, ça, il faut qu'il y ait beaucoup de glissements près de la faille. Donc encore une fois, on se trouve avec ce problème de la partie frontale supposée asismique de la faille. Et ça, c'est un problème qui vient de loin et dans lequel il y a énormément de chercheurs qui se sont engouffrés. C'est le problème de la segmentation en profondeur. Donc le chevauchement frontal est considéré comme un système séparé. Et deux caractéristiques mécaniques lui ont été attribuées. La première, le frottement est stable. Donc, cela peut glisser de façon continue. Donc, il peut se décharger de façon continue. Jamais il va accumuler des contraintes, une déformation élastique qui va permettre de produire la rupture sismique. Deuxième chose, il y a un durcissement avec la vitesse. La traduction ici en anglais, « velocity strengthening behavior ». Cela veut dire que si jamais il y a une rupture, elle ne arrivera jamais à passer parce que il y aura, c'est comme une barrière molle qui va réagir en se déformant et en ne laissant pas passer la rupture. Alors il y a beaucoup de dessins qui représentent ça et qui ont été repris dans les livres, des textes de toutes sortes. Mais en gros, les conséquences sont que ce type de considération réduit la largeur de rupture par un facteur 2 et que celui réduit beaucoup la puissance des tsunamis qui sont produits. Parce que c'est la partie frontale, c'est celle qui donne le plus d'énergie, transmet le plus d'énergie au tsunami. Voici une autre, ça se tirait des livres, hein, ce sont des livres qui expliquent cela, on nous a expliqué ça pendant 30 ans, que la partie superficielle ne pouvait pas rompre. Et donc c'était asismique et seulement cette partie-là était sismique, ça c'est un exemple, c'est le même problème. Et puis ici, une image, là, sismique qui est très récente et de très bonne qualité, qui montre dans l'article que je vous montre ici, c'est la partie sud du Japon, mais on commence à se poser beaucoup, des sérieux problèmes. Est-ce que c'est vrai qu'un gros tremblement de terre ne va pas rompre par en dessous? On était en train de se poser cette question, la réponse est venue du tremblement de terre du nord, effectivement, cette partie basale rompt et produit beaucoup d'énergie, surtout pour être transmise au tsunami. Bon, dernier point que je voulais vous faire, c'est le problème de la modélisation. Et là, pour cela, un seul exemple. L'exemple d'un tsunami, un tremblement de terre et tsunami passé, c'est ce qui s'est produit l'année 869 et qui est connu par le nom des Hyōgan Earthquake, le tremblement de terre des Hyōgan, et qui s'est produit, accompagné par un tsunami, très visible dans la baie des Sendai, exactement le même endroit où nous sommes maintenant familiers avec les images du tsunami qui avance et qui dévaste tout. Les données ont été les données que je vous montrais tout à l'heure, ce sont des données des tranchées, ce sont des données géologiques, des coupes en tranchées qui montrent les traces de ce tsunami passé et qui a été cartographié. Donc les traces ont été cartographiées, on a pu déterminer jusqu'où il était allé et bien daté. Et ensuite, à partir de ces données, on a produit des modèles pour essayer de comprendre quelle avait été la source possible. La source qui a été proposée, c'est celle-ci, en gros. Donc, et cela donne une magnitude 8.4. Donc, si vous comparez avec ce qui est proposé dans la région, tout cela est très conforme au consensus, avec les consensus. C'est-à-dire que ce tremblement de terre associé à ce tsunami, finalement, n'a pas beaucoup changé la donne. Tout cela, ce sont des observations qui ont été faites au début des années 2000 et la modélisation a été faite en 2008, la modélisation que je vous montre ici. Donc on arrive à un tremblement de terre relativement petit, cohérent avec tout ce qu'on dit. Or, regardons maintenant ce qui s'est passé, vous connaissez. Un ordre de grandeur au-dessus, je passe des commentaires, c'est donc deux événements qui devraient être totalement différents. Or, voici les types de données. C'est uniquement pour illustrer les types de données. C'est une couche de sable qu'ils ont pu bien déterminer avec des objets. Et cette couche de sable vient se déposer sur des sédiments beaucoup plus de faciès, beaucoup plus calmes, et parfois avec des sols qui sont bien datés. Ici, non, je crois qu'ils n'ont pas pu dater de sols, mais des cendres volcaniques. Le Japon produit beaucoup de cendres volcaniques qui sont datables et qui ont permis de caler. Ça, c'est le tsunami de 869. Il y en a un autre plus petit, un peu plus haut, 1611. Et ces auteurs ont conclu que les datations obtenues sur cette étude permettaient de dire qu'il y avait des tsunamis très gros de ce type-là, avec un temps de retour de l'ordre de 600 à 1300 ans. Donc, qui pouvait aller vers le millénaire. Maintenant, regardons les déductions qui en ont été faites. Voici les données à gauche, les modèles à droite. Donc ça, c'est une série de modèles. Le modèle qui... C'est donc l'inondation de la plaine des Sendai avec les observations avec les différentes tranchées. Vous voyez, il y en a des centaines de points d'échantillonnage. Et vous voyez ici une série de modèles. Le modèle qui a été choisi, c'est-à-dire celui qui satisfait le mieux cette inondation, et la source que je vous ai indiquée qui dépasse un peu la magnitude 8, mais qui n'arrive pas à faire un 9 et qui est au moins un ordre de grandeur plus petit. Maintenant, on va regarder ce secteur de l'aéroport qui est assez familier pour beaucoup d'entre nous, l'aéroport de la ville de Sendai. Maintenant, à gauche, ce que vous voyez, c'est une imagerie satellitaire des hautes résolutions qui a été prise après les tremblements de terre de 2011, donc, et qui marque très bien en bleu l'inondation de 2011. À droite, les données collectées par les géologues et qui ont permis de déterminer la dimension du tremblement de terre de 869. Vous voyez ici donc la trace de l'aéroport et les échantillons. Vous reconnaissez les routes. Ici, il y a un agrandissement du secteur de l'aéroport. Là, ce sont les traces des échantillons pris et qui déterminent l'extension du tremblement de terre du tsunami de 869 comparé à l'arrivée du tsunami de 2011. C'est exactement la même chose. Or, cela veut dire que si la personne qui a fait la modélisation de 869 reprend les données de 2011, il va aboutir à un petit tremblement de terre. Donc, petit problème aussi. Maintenant, je vais conclure pour cette partie. Les trois problèmes qui semblent être importants, pourquoi on s'est trompé, c'est un problème de perception de la sismicité des tsunamis comparé à la grande échelle temporelle et spatiale. Un problème de concept sur lequel on a adopté un consensus et même un jargon. En particulier le problème du couplage partiel et le problème du chevauchement frontal pour lequel on s'est trompé carrément pour la compréhension mécanique de cette partie. Les modèles utilisés, j'ai montré un seul exemple, mais évidemment il y a beaucoup de modèles qui concernent le chevauchement frontal qui sont faux. Ces modèles sont complexes, mais on a eu un excès de confiance. Et la leçon principale, la nécessité de regarder à l'échelle mondiale et d'explorer mieux le passé géologique. Merci.
Voilà, donc je vais prendre la suite de Rolando sur l'aspect tsunami. Donc je vous propose de faire un panorama des observations de ce tsunami exceptionnel et les faits donc, et les questions soulevées. Donc je vais prendre un peu la suite de ce qu'a déjà un peu exposé Rolando. Je vais commencer par cette illustration d'une photographie donc, que j'avais trouvée dans le journal Le Monde peu de temps après le séisme, qui souligne, donc c'est une stèle commémorative qui se trouve sur les hauteurs d'une baie dans le nord du Japon. C'est aussi au passage très modestement un hommage au peuple japonais qui a beaucoup souffert sur ces catastrophes naturelles. Il faut rappeler que le tsunami, c'est un terme d'origine japonaise, donc on est vraiment au cœur de l'origine du phénomène. Cette stèle, qu'est-ce qu'elle dit ? Moi, je ne lis pas le japonais, mais donc elle dit qu'il ne faut pas, à l'avenir, que les générations reconstruisent en deçà de cette altitude et que la zone en question, et il y a plusieurs stèles de ce type sur le littoral japonais, sur ces zones-là, on sait que les générations passées ont connu des inondations catastrophiques, donc des tsunamis, qui sont remontés assez loin à l'intérieur des terres, donc ne reconstruisez jamais sous ces limites. Et ça illustre vraiment le poids de la connaissance historique pour vraiment bien contraindre l'aléa, l'étude de l'aléa et donc tout ce qui s'ensuit. Alors pourquoi un tsunami ? Donc on a là un très très grand séisme de subduction et tous les grands séismes de subduction, Rolando a montré la liste des grands séismes connus, tous ces séismes-là ont été tsunamigéniques, sans exception. Qu'est-ce qui se passe au moment de ces séismes ? On a vu que le fond sous-marin se soulève très rapidement sur des dimensions horizontales exceptionnelles, on est sur des centaines de kilomètres carrés, et les fonds sous-marins qui se soulèvent donc déstabilisent l'océan et engendrent une propagation d'ondes. Alors ce sont des ondes longues, au sens où elles sont de grandes longueurs d'onde par rapport à l'épaisseur de la couche d'eau, et elles propagent très bien, sans trop de dispersion, énergie, à des distances considérables. Et il y a un événement qui est ici modélisé en bas à gauche, qui est le tsunami de 1960 au Chili, qui a vraiment beaucoup marqué, je vais en reparler plus tard, qui a énormément marqué la communauté pacifique à l'époque, qui avait fait encore donc, des dizaines de victimes au Japon. Et puis, dans les années 50-60, donc on a parlé de 52, il y a eu toute une série de séismes de ce type, dans le pourtour pacifique, beaucoup dans le nord aussi du Pacifique. Et puis, on n'a rien eu jusqu'en 2004. Il n'y a pas eu de séisme comparable entre 1964 et 2004, pratiquement. Donc, une quarantaine d'années de silence, entre guillemets, sur ce type de méga-séisme. Alors, pour le Japon, on a vu qu'il y avait des données de paléodépôts spectaculaires sur cette zone de Sendai. Il faut rappeler aussi que l'équipe de Minura, donc, qui avait commencé ses travaux-là au début des années 90, avait tenté d'alerter sur le fait qu'il y avait des observables passés, donc possiblement avec des périodes de retour peut-être de 1000 ans, mais que donc il y avait un observable. Après, les modèles derrière posent d'autres questions, mais au moins l'observable existait. Et ils avaient donc tenté d'alerter sur ces aspects-là. Alors, un tsunami, c'est à la côte qu'on va l'observer, c'est très peu au large, encore que là je vais vous montrer des données assez exceptionnelles. À la côte, ça se traduit comment ? Ça se traduit par une inondation turbulente qui pénètre assez loin, et parfois très loin à l'intérieur des terres. En haut à gauche, justement, vous avez l'exemple d'un tsunami des années 50 sur Hawaï. En bas à gauche, c'est le tsunami de 2004 qui a été photographié à l'île de Rodrigues, dans le sud-ouest de l'océan Indien. Donc ici, c'est un peu une sorte de petit mascaré, entre guillemets, qui va remonter un canal avec une amplitude qui ne va pas dépasser peut-être 1 à 2 mètres. Ça paraît plus modeste. Et puis, à droite, donc ces images extraordinaires qu'on a vues au mois de mars, qui, pour la première fois, ont été filmées en direct à la télévision, donc avec toute la dimension médiatique que ça prend en plus. Alors vous avez à nouveau ces flots ici déferlants qui pénètrent dans la plaine de Sendai. Et puis ici, sur un port, ces images extraordinaires, des murs qui étaient conçus pour résister à ces tsunamis, ces murs qui, comme on le sait, n'ont pas suffi. Donc je vous montrerai également, donc, à la suite de Rolando, un peu comment on a dimensionné ces murs. Voilà une autre image d'un contexte post-tsunami, donc un rivage dévasté. Toute l'occupation du sol a été balayée. Et vous voyez ici un mur qui n'avait pas suffi non plus. Et là, on est en 1993, on est au Japon, toujours la Terre malheureusement très touchée par ces phénomènes. Donc un séisme de magnitude à peine 8-7, mais qui, vous le voyez, a créé beaucoup de dégâts, évidemment, localement. Alors j'ai mis dégâts, mais en fait, il a été observé marégraphiquement à des milliers de kilomètres, jusqu'à Hawaï et même jusqu'à assez loin au-delà aussi. Donc voilà, un tsunami, très gros dégâts localement, et puis encore des effets à distance. Les effets, on en a vu aussi, donc des destructions totales de toutes les installations portuaires en particulier, beaucoup, beaucoup d'effets sur les ports. Alors, Rolando a repris également cette image. Donc, au moment du séisme, un soulèvement, une déformation colossale qui a été ici en plus enregistrés par les réseaux très très denses, très poussés qu'ont développés les Japonais depuis de nombreuses années. Et vous voyez les dimensions mises en jeu, vous voyez les amplitudes du déplacement aussi bien horizontal que vertical à droite. Donc on a des déformations accumulées qui soudain donc, se relâchent, et les contraintes qui se relâchent, et donc un soulèvement brutal du fond de la mer. Alors comment on va enregistrer un tsunami? Je vais vous montrer quelques exemples. On travaille beaucoup avec la marégraphie portuaire. Alors malheureusement, le marégraphe, c'est un instrument qui mesure surtout la marée, donc dans des gammes de périodes qui ne sont pas strictement celles des tsunamis. Un tsunami a pour période entre 20 et 40 minutes, on va dire typiquement. Donc le tsunami, c'est un petit phénomène de courte période par rapport à la marée, qu'on peut détecter quand même assez facilement en général. Et il faut dire que la marégraphie a fait énormément de progrès depuis 2004 pour ce qui est des échantillonnages des marégraphes numériques. On a beaucoup perdu, en fait, au moment de l'essor de la marégraphie numérique. Ils ont été très souvent sous-échantillonnés. Et dans les années 80-90, très souvent, les marégraphes portuaires rataient les tsunamis par mauvais échantillonnage temporel. Ce qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant et qui est aussi spectaculaire, ce sont les capteurs au large. Alors là, on va travailler sur des tsunamis qui sont en cours de propagation et qui sont, par nature, de faible amplitude. Et il existe donc des capteurs de pression au fond de la mer qui sont capables de détecter des tsunamis centimétriques, donc qui passent sur des périodes de 20 à 40 minutes. Et ces capteurs-là, très efficaces, sont maintenant intégrés dans les systèmes d'alerte, dans le Pacifique en premier lieu. Je vais vous montrer aussi que les Japonais ont mis en place de nombreuses bouées GPS, donc sur une technologie un petit peu différente, plus près de la côte, qui mesurent aussi très bien les tsunamis juste avant leur impact à la côte. Alors là, vous avez la répartition actuelle des réseaux de capteurs de pression dans le Pacifique, avec aujourd'hui des développements vers les Caraïbes, vers l'océan Indien. En fait, l'idée, c'est de mesurer le tsunami dans l'heure ou les deux heures qui suivent sa génération pour pouvoir prévoir au mieux les effets ensuite sur les rivages les plus éloignés. Donc c'est vraiment un élément fondamental dans les systèmes d'alerte actuellement. Alors, le tsunami, quand il impacte la côte, bien souvent, on le mesure justement pour les cas historiques, on va pouvoir avoir accès à des dépôts très particuliers qu'on peut mesurer et qui reflètent donc qui sont des paléo-tsunamis, qui reflètent l'inondation des événements du passé. Malheureusement, ces données-là ne sont pas une description de la propagation de l'onde et de son impact. On a donc juste des points d'impact. On sait que le tsunami a atteint telle hauteur, c'est ce qu'on appelle la hauteur de run-up, l'altitude maximale atteinte par les flots. Alors, dans les premières minutes qui ont suivi ce séisme, donc le 11 mars, vous avez ici en bas à gauche donc le démarrage de la rupture avec la petite étoile rouge, et puis ici ces deux points qui sont des capteurs de pression, donc qui ont mesuré, donc le séisme était à 14h46, vous avez donc dans les 10-15 minutes qui suivent, cette première mesure sur le capteur ici TM1, qui a une amplitude extraordinaire de 5 mètres. Donc on est là en eau profonde, entre guillemets, je ne sais plus si c'est entre 500 ou 1000 mètres de profondeur, mais enfin on n'est pas à la côte, hein, et on a déjà 5 mètres d'amplitude de tsunami, c'est exceptionnel. Alors ce qui est exceptionnel aussi, c'est la forme de l'onde, très très particulière, avec un pic très étroit qui a une période d'environ même pas 5 minutes, sur laquelle il y a encore quelques réflexions, qui pourraient refléter la partie justement de la rupture la plus superficielle et la plus énergétique, là où les amplitudes de la déformation au fond étaient vraiment très très fortes. Donc ces données-là, 10-15 minutes, déjà indiquaient que le tsunami était majeur. Au moins à cette latitude-là, bon, il n'y avait pas beaucoup d'autres capteurs à d'autres latitudes, mais évidemment, sur toute la longueur de la rupture, ça a dû être à peu près équivalent. Les bouées GPS, qui elles sont un peu plus proches des côtes, vous voyez, à une vingtaine de kilomètres ici, au large de la côte de Kamaishi, on a ici l'enregistrement du tsunami un petit peu plus tard, mais toujours à peu près à moins d'une demi-heure, juste avant son impact, à nouveau. Donc là, on est déjà à 7 mètres, c'est considérable. Et à ce moment-là, l'alerte était en cours, mais vous allez le voir, elle était un petit peu sous-estimée. Donc un enregistrement aussi qui est tout à fait exceptionnel. Alors, j'en arrive aux enregistrements ensuite dans les ports. Dans les ports, donc les marégraphes, je vous ai dit, ils enregistrent beaucoup la marée, ils enregistrent énormément en fait, les phénomènes portuaires. Donc si vous voulez... Si on prend un équivalent sur la sismique, un port, c'est un effet de site terrible. C'est un effet de résonance majeur. Mais ce qu'on voit ici, bon, la plupart des marégraphes, bien entendu, n'ont pas résisté à l'énergie qui est arrivée dans les bassins. Alors, vous avez ici les ports, là, on a dans l'ordre chronologique, hein, mais ce que vous voyez ici, donc, c'est une montée ici. Donc, on a une montée à plusieurs mètres et puis l'instrument qui ne résiste pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, en général, donc, cette descente, qui est un peu le précurseur souvent du tsunami, c'est que la mer va se retirer avant que le tsunami arrive. Et puis toute une série d'oscillations qui sont aussi extrêmement intéressantes, qui reflètent très probablement donc la réponse du port à la secousse sismique, donc une mise en branle du bassin portuaire, qui est ce qu'on appelle une sèche portuaire, en fait, avec des périodes particulières qui sont strictement liées à la géométrie du bassin portuaire. Alors il y a un très bel exemple dans le port d'Ishinomaki, qui se trouve au nord de la baie de Sendai, où on a cette oscillation donc, aussitôt après le séisme, pendant une vingtaine de minutes, à une période qu'on pourrait calculer, mais qui doit probablement être la période de résonance, la période propre de résonance du bassin, avant l'arrivée du tsunami. Et puis ensuite, cette montée, là, on est à 10 mètres, à nouveau, et l'instrument qui ne tient pas le coup. Donc ça, ce sont vraiment des données extraordinaires que les modélisateurs de tsunami mettront du temps à modéliser. Je pense en particulier à ça, parce que là, on a un phénomène mécanique qui n'est pas forcément pris en compte. Alors l'autre point aussi, c'est que ces marégraphes portuaires, donc, qui sont attachés à la côte, évidemment, répondent aussi à la subsidence ou la surréaction cosismique au moment du séisme, donc une montée apparente de l'eau correspondant à une subsidence tectonique, etc. Donc la réponse est vraiment assez complexe à décrypter sur ces données-là. Ensuite, bien entendu, dans les jours et les semaines qui ont suivi, il y a eu de nombreuses équipes qui se sont déplacées sur le terrain et qui ont donc pris des mesures donc post-tsunami. Donc ce sont les fameuses mesures de run-up ou les mesures d'épaisseur de l'eau à la côte. Là, vous avez en code couleur donc, les hauteurs de run-up ou de ce qu'ils appellent les hauteurs de inondation, en rouge et orangé, le long de la côte donc, du Japon, avec le séisme qui se trouve ici. Alors reporté ici à l'échelle de la baie de Sendai, et donc ici le port d'Ishinomaki dont je vous parlais, donc beaucoup de hauteurs qui sont là de 10-15 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et donc des zones d'inondation sur ce type de tsunami, comme à Banda Aceh en 2004, qui atteignent plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Alors, si on regarde une distribution de ces données-là le long de la côte, ce qui a été reporté ici, ce sont aussi les données historiques connues, donc le tsunami majeur de 1933, qui est l'autre événement aussi qui était très marquant pour les Japonais, mais qui, vous voyez ici en vert, est quand même nettement plus, environ un facteur 2 plus faible que celui de 2011. Vous avez également celui donc, de 1896, le tsunami majeur aussi de la région, qui arrive aussi à une vingtaine, trentaine de mètres de run-up. Celui de 2011 a des points extrêmes à 40 mètres. Donc là, on pourrait discuter en détail aussi des techniques de mesure, c'est parfois un peu compliqué, mais disons que la tendance générale, la distribution reflète parfaitement le fait qu'on a des hauteurs de run-up extrêmement soutenues sur plus de 300 km, on va dire. Et ces hauteurs-là, elles correspondent en fait à la zone cosismique qui a le plus bougé, donc là où les déformations et les déplacements sur le plan de la faille sont les plus grands. Vous remarquerez bien sûr également cette zone non couverte qui est la zone de Fukushima Daiichi, qui n'a pas encore été à ce jour relevée. Alors, un effet intéressant aussi, cette équipe, toujours l'équipe de Mori, est allée mesurer donc, sur différents contextes côtiers. Et là, on a l'exemple de deux baies dont l'une était protégée par ces digues qui sont disposées au large. Les Japonais ont énormément investi dans des murs, des digues de protection para-tsunami. Ils ont beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, donc là en bas, cette baie qui était protégée par une digue au large, eh bien sur cette baie, on voit que les hauteurs au large, qui sont considérables d'une vingtaine de mètres, bon, et bien entendu, le tsunami derrière a été bien cassé et on n'a plus que, entre guillemets, 5 à 10 mètres de hauteur. Une baie un peu équivalente, qui n'est pas très éloignée, conserve en fait cette hauteur de l'énergie qui arrive et qui va arriver pendant des heures aussi, parce que les vagues se sont succédées pendant plusieurs heures. On a un niveau à 10-15 mètres qui continue, qui est soutenu et que rien ne freine. Ça, ce sont aussi des données vraiment extraordinaires. Alors, là, une petite illustration. Donc, j'ai des collègues qui travaillent dans un laboratoire de télédétection au CEA qui se sont intéressés aussi à la détection des dégâts sur ce tsunami en analysant des images radar avant et après la catastrophe. Mais on est toujours sur cette baie de Sendai. On a ici, en bleu, si vous voulez, en gros, la situation pré-tsunami et en rouge, post-tsunami. Donc ça, ce sont des casiers à huîtres, je crois, qui étaient dans la baie ici, qui se sont tous retrouvés ramassés en fond de baie après l'événement. Même genre de quantification, au moins par l'image, donc sur cet aéroport, où on retrouve tous les débris qui ont été balayés sur la piste de l'aéroport, et on l'a vu aussi à la télévision, beaucoup le jour J. Alors, un petit aparté sur la Polynésie française, donc dans le cas d'un événement comme ça, spectaculaire, donc magnitude supérieure à 9, il y a une alerte rouge au tsunami qui est déclenchée en Polynésie française, et spécialement aux Marquises, qui est un archipel d'îles dont les pentes sous-marines sont très faibles, qui amplifient systématiquement les grands tsunamis transpacifiques. Donc là, toutes les zones ont été évacuées. Donc le centre d'alerte au tsunami de Tahiti a fait évacuer toutes les zones littorales, mais vous voyez le type de dégâts. Ici, les run-up sont de l'ordre de, on va dire, 3 mètres à peu près. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels seulement, heureusement, mais et des baies. Alors la particularité du tsunami, c'est qu'il s'engouffre très facilement au fond des baies, dans les rivières et dans les estuaires. Donc là, il est remonté le long d'une baie à Nukuiva, jusqu'à quelques centaines de mètres, je pense, à l'intérieur des terres. Alors ce tsunami donc transpacifique, je vous le disais, je vous ai parlé de 1960 tout à l'heure, qui avait fait encore des dizaines de victimes au Japon plus de 20 heures après le séisme. Eh bien là, il a été observé partout. Alors si on prend le Chili, on a encore ici, vous ne voyez peut-être pas l'échelle, mais on a un marégramme à Arica qui est crête à creux de 4 mètres d'amplitude. C'est considérable, bien entendu. Dans le sud de l'Atlantique également, un signal qui a été, alors là on est plutôt dans l'ordre de 50 à 60 cm d'amplitude, mais le tsunami est bien entendu remonté ici vers l'Atlantique. Et puis donc la Polynésie française, ici sur toujours les Marquises. Et vous voyez ces marégrammes, la perturbation, là on est sur plus de 24 heures, elle s'inscrit, elle excite le port et elle dure. Il faut en moyenne 2 à 3 jours pour que le port retrouve son niveau précédent l'arrivée du tsunami. Alors si on regarde ce marégramme d'ailleurs marquisien, il est assez intéressant, on voit un regain d'amplitude. Une vingtaine d'heures après la première arrivée, il semble qu'il y ait eu une réflexion majeure sur la côte du Chili, de l'Amérique du Sud, avec un renvoi d'énergie qui réatteint la Polynésie dans un créneau horaire qui est tout à fait compatible avec l'observable ici. On avait déjà soupçonné ce genre de choses sur l'océan Indien en 2004, mais on avait moins d'observables. Là, il est vrai que ce regain d'amplitude, et on l'a sur plusieurs marégrammes polynésiens, semble vraiment bien coller avec une réflexion sur la côte sud-américaine. Alors, l'énergie du tsunami, elle se propage dans une direction préférentielle par du fait de la directivité de la rupture du séisme. Et cette direction préférentielle est la perpendiculaire à la faille. Donc, on voit que les zones les plus exposées en cas de tsunami, dans le cas de ce tsunami, étaient situées dans cet axe-là. Et donc, d'où aussi les 4 mètres observés au Chili. C'est vraiment, on est exactement dans l'axe pénalisant. Donc, le Chili en 1960, ici, de la même façon, était complètement pénalisant pour les côtes chiliennes. Et ça, ça a été déterminant. Alors, au passage, quand même, on a eu aussi pas mal de dégâts matériels sur les côtes nord-ouest américaines, le 11 mars. Toute une série aussi d'impacts dans les ports, ports de pêche, ports de plaisance. Alors, la modélisation, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais il faut savoir qu'on travaille, donc effectivement, au CEA, moi, c'est un peu mon métier. On travaille sur la modélisation du séisme, la modélisation de la propagation d'ondes, et la modélisation à la côte. C'est vraiment 3 segments qu'on essaye d'intégrer au maximum, mais qui sont finalement la frontière de plusieurs disciplines. Et c'est peut-être là qu'il faut souligner un peu les limites, c'est qu'il faut pouvoir en permanence travailler avec des sismologues pour bien ajuster les modèles sources, ce qu'on a pu discuter sur les cas japonais tout à l'heure, mais également avec les problèmes de réponse à la côte qui sont en général beaucoup plus complexes à traiter. Donc on travaille avec des résolutions numériques des équations de la mécanique des fluides. Bah, simplement un exemple, effectivement, si on a la capacité d'avoir un bon modèle pour un séisme, si on a un bon modèle de propagation à la côte, eh bien ici, les Japonais étaient tout à fait capables d'ajuster, comme de nombreuses équipes de modélisateurs, on sait ajuster un observable avec un modèle, bien entendu. Ici, c'est un exemple, justement, de ce tsunami de 1960 dans la préfecture de Miyagi, avec, vous le remarquerez, donc une amplitude de crête à creux à nouveau d'environ 4 mètres, donc un tsunami qui était tout à fait majeur. Alors les Japonais ont énormément travaillé, Rolando l'a évoqué aussi, sur la modélisation et sur les mécanismes à prendre en compte pour ces modèles. Alors on parlait de la source, on a parlé un petit peu des tsunami earthquakes. D'une part, on a beaucoup regardé qu'est-ce qui contribue le plus à la génération du tsunami. Donc je vous ai parlé du déplacement au fond de la mer, c'est bien entendu au premier ordre. On prend en général en compte aussi des mouvements des pentes fortes, qui peuvent aussi les mouvements horizontaux, qui peuvent aussi ébranler l'océan. Et puis ces fameux tsunami earthquakes qui ont été aussi définis par les Japonais, c'est la possibilité pour la rupture d'atteindre la proximité de la surface et de faire jouer des matériaux qui sont une rhéologie assez différente. Et le tsunami earthquake, par quoi il se traduit ? Il se traduit par une rupture sismique qui est très lente. Et 1896 est référencé comme un tsunami earthquake, c'est-à-dire un tsunami qui va avoir une rupture lente et qui va être très peu ressenti par la population. Donc le signe avant-coureur naturel d'un tsunami qui est la secousse sismique, dans ce cas-là, est beaucoup plus atténuée. Et ça, ce sont des séismes qui se sont produits assez récemment sur les côtes de Java, par exemple. Il y a eu aussi au Nicaragua dans les années 90. Ce sont des séismes, donc, a priori, qui, justement, ont une déformation dans des matériaux plus meubles et nettement plus complexes au niveau du prisme de l'accrétion. Les Japonais, à nouveau, ont beaucoup travaillé sur l'inversion des marégrammes. Alors, ils ont la chance, entre guillemets, d'avoir une vieille marégraphie portuaire qui a mesuré, qui a enregistré des tsunamis depuis des dizaines d'années. Et ici, par exemple, ils ont été capables, exactement comme on le fait en sismologie, d'inverser les marégrammes pour proposer une image de la source Et ils ont tout à fait maîtrisé cette possibilité eh bien, de tirer l'information du marégramme pour imager les grands séismes de subduction. Alors, c'est vrai que Rolando a mis le doigt sur le fait qu'un modèle n'est pas unique, bien entendu, et qu'un modèle direct doit être pris avec beaucoup de précautions. Ce qui est notable aussi, c'est que si on prend ces cartes d'aléas qui ont été réalisées, là aussi, depuis très longtemps au Japon, ici on a l'exemple du site de Taro, vous avez une carte d'aléas tsunami. Comment elles sont réalisées, ces cartes d'aléas tsunami? Eh bien, on prend, alors suivant le consensus ambiant, suivant aussi les discussions qu'on peut avoir avec les sismologues, on prend des scénarios déterministes et on modélise l'effet à la côte. On propose ici une zone qui pourrait être une zone non constructible, par exemple. C'est une zone d'inondation où on peut atteindre 6 mètres de run-up, donc ce qui doit intégrer ensuite un plan de prévention des risques correctement fait, etc. Alors, il se trouve que sur ce site-là, l'inondation de 2011 est parfaitement cohérente avec la carte d'aléa. Là, on se dit qu'ils avaient bien estimé l'aléa pour cette zone-là. Maintenant, évidemment, ce qui vient derrière ces calculs-là, c'est aussi le problème de l'aménagement du territoire. J'avais donc récupéré cette représentation ici, je crois que c'était de Shuto, qui nous avait montré sur un village, à nouveau, vous voyez les grands tsunamis marquants 1933, 1896, 1960, avec des lignes d'inondation très très à l'intérieur des terres, avec une rivière d'ailleurs ici, donc à nouveau ce tsunami qui pénètre. Et donc les autorités avaient décidé de décaler le village qui avait été balayé, avait été reconstruit intégralement plus haut, ce qui était très sage. Maintenant, les densités de population et le développement démographique aidant, quelques années après, ils sont revenus s'installer en fait de plus en plus à proximité de la mer en oubliant complètement cette connaissance ancestrale, enfin au moins de quelques dizaines d'années. Alors, bien entendu, le littoral japonais est très équipé aussi de signaux qui mentionnent les zones d'évacuation, les zones de refuge, pour savoir répondre correctement au moment où il y a une alerte. Alors peut-être que les Japonais ont trop d'alertes au tsunami, c'est peut-être devenu contre-productif parce qu'ils ont eu peu de très grands séismes et finalement, à chaque fois, c'était des petites alertes au tsunami. Il faut noter quand même que la connaissance qu'on a sur le tsunami de 1896 montre qu'il y aurait eu à peu près 20 000 victimes. Et on constate que c'est à peu près le même nombre aujourd'hui, avec des densités de population qui sont nettement plus fortes aujourd'hui. Donc on peut penser quand même que l'alerte aujourd'hui a aider à ne pas avoir plus de 50 à 100 000 victimes. Donc il y a eu une certaine efficacité sur ce système d'alerte japonais. Alors si on prend la zone de Fukushima, et c'est vraiment frappant de voir les documents de TEPCO sur le dimensionnement. Ce dimensionnement a été fait dans les années 60 en fait. Et qu'est-ce qui était marquant en 1960? C'était le tsunami de 1960 du Chili. Donc les Japonais ont réalisé toute une série d'études paramétriques aussi sur des sources plus proches, mais comme le disait Rolando, de magnitude limitée. Et ce qui les préoccupait plus, c'était à la limite le télé-tsunami qui venait du Chili. Alors, ils ont balayé effectivement toutes les sources possibles, mais pas en allant jusqu'à une rupture totale, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le scénario retenu au large du site produisait une hauteur de tsunami qui était de l'ordre de 5 à 6 mètres, d'où les murs de dimensionnement à 7 mètres. Alors, au moment de l'alerte au tsunami, la première action, c'est donc une détection précoce du séisme et une caractérisation la plus exacte possible. Les Japonais se font fort donc d'émettre un message en moins de 3 à 4 minutes. Malheureusement, un grand séisme en moins de 3 à 4 minutes, on n'a pas encore un recul suffisant pour estimer sa magnitude. Il faut aller un peu au-delà, et par ailleurs, toutes les données locales étaient saturées. La magnitude qu'ils utilisent à JMA pour ces calculs-là est plutôt sur des courtes périodes, par ailleurs, et donc ça ne suffit pas pour imager correctement un très grand séisme. Donc leur message à 4 minutes, c'était magnitude 7-9. Toute la chaîne qui découle ensuite, que je vais vous montrer un peu, après, elle dépend complètement de ce paramètre d'entrée. 7-9, donc 7-9, et bien ça veut dire que la zone ici de Sendai et un peu au nord ici va être possiblement exposée à un grand tsunami, 3 mètres ou plus. Donc ça, c'était le message à 3 minutes, donc c'est diffusé sur les télés, sur les radios, enfin, c'est diffusé dans tous les médias. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, avec des méthodes comme celles que développe Luis Rivera à Strasbourg sur les inversions des phases W des sismogrammes, on a accès déjà dans les premières arrivées sismiques à des contenus de beaucoup plus longues périodes, qui nous donnent en une quinzaine ou une vingtaine de minutes, tout de suite, la magnitude 9. Il a été calculé très rapidement à ce niveau-là. Alors les Japonais ont eu, bien entendu, quand même une révision de ces estimations-là, mais ce n'est que plus d'une vingtaine de minutes après le séisme qu'ils ont proposé une mise à jour avec donc cette zone qui était nettement plus étendue que le premier message. Mais vraiment, la problématique est l'estimation rapide de la magnitude dans un contexte proche de la source. Alors, la modélisation des tsunamis sert aujourd'hui de plus en plus à l'alerte. Les Japonais, je vais vous également l'ont utilisé. Les Américains ont beaucoup développé ça aussi depuis une dizaine d'années, en s'appuyant sur les bouées dont je vous parlais. Donc là, il y a l'exemple du séisme et tsunami du Pérou en 2007. Donc le principe, en fait, c'est de travailler avec des fonctions élémentaires qui discrétisent toutes les zones de subduction. Donc on a des tsunamis élémentaires et on fait une sorte d'inversion des données au large, donc les bouées au large ici. Et très rapidement, on peut avoir une sorte de météo des tsunamis, c'est ce qu'ils appellent le forecast. On va prévoir sur les sites éloignés comment sera le tsunami. Alors on peut le faire d'autant plus précisément qu'on a évidemment ces bouées au large qui captent le tsunami dès l'origine et qui sont vraiment sensibles finalement à la source et qui vont donner ensuite, à la fin de la propagation, on extrapole jusqu'aux baies et aux ports. Donc ça, ce sont des pratiques qui commencent à se développer. Les Japonais ont l'équivalent. Alors dans les deux cas, les Japonais là, ont proposé une refonte intégrale de leur système d'alerte et ils vont intégrer de plus en plus ces aspects calculatoires au plus tôt dans le processus de l'alerte. Ici, par exemple, il y a une équipe qui s'est intéressée justement à l'exploitation de ces données que je vous ai montrées au début, les capteurs de pression. Donc vous avez qui sont là, on retrouve le TM1, TM2. Et 20 minutes après le séisme, par un processus donc, de calcul adapté, on peut déjà prévoir comment seront les marégrammes à la côte un peu plus loin. On peut rafraîchir le calcul 35 minutes après au fur et à mesure que le tsunami est en train de se propager et proposer là aussi un forecast qui marche plus ou moins bien, il y a des zones où ça ne marche pas, mais qui en gros va donner l'allure du marégramme à la côte. Et si vous regardez les échelles, donc on arrive à des marégrammes qui sont d'amplitude tout à fait considérable. Donc ça veut dire qu'on peut, sous réserve évidemment d'une implantation opérationnelle qui n'est pas simple, hein, mais on peut techniquement calculer en 20-30 minutes l'impact qu'aura le tsunami dès lors qu'on a pu le capturer à la source. Alors on a parlé tout à l'heure effectivement du fait qu'il y aura très prochainement un centre d'alerte au tsunami en France qui va s'installer au CEA en 2012. Donc je voulais juste en dire un mot, c'est un partenariat avec le CNRS et avec le CHOM. Et comme dans tous les systèmes d'alerte, donc le but est de détecter en quelques minutes le séisme, de surveiller le niveau de la mer et d'émettre des messages d'alerte appropriés en moins de 15 minutes. La grosse difficulté, donc nous, notre zone d'intérêt actuellement, ça va être la Méditerranée occidentale, dans une collaboration internationale qui est un petit peu complexe, mais qui se fait sous la responsabilité de l'UNESCO. Méditerranée occidentale, on n'a pas actuellement, bien entendu, de mesures au large. Donc on va beaucoup travailler avec des scénarios. Et c'est là qu'on revient aussi sur le fait de connaître au mieux la sismotectonique régionale pour mieux prédire les tsunamis. Le système d'alerte fonctionne donc sur un segment sismique qui doit donner les caractéristiques d'un séisme en 5 minutes. Donc vous avez compris que ça nécessite un travail assez en finesse sur les ondes sismiques, et puis ensuite sur toute une série d'outils automatiques et surtout une permanence 24 heures sur 24 parce que les zones que nous surveillons correspondent à des temps de propagation très faibles des tsunamis. Donc message émis dans les 15 minutes. En fait, ces aspects opérationnels calculatoires, maintenant on fait beaucoup de progrès aussi parce que les codes sont parallélisés. Et puis on va faire, comme ce que font les Américains et les Japonais, beaucoup de pré-calculs, de scénarios élémentaires qu'on fera jouer avec le maximum d'incertitudes pour proposer cette répartition finalement de l'énergie attendue du tsunami. C'est-à-dire, est-ce que c'est les Baléares qui sont les plus menacés? Est-ce que c'est telle ou telle zone? Là, je me suis placée dans le cas d'un séisme en Algérie. Bien entendu, on va surveiller aussi la mer Ligure, toutes ces zones-là étant des zones où il y a eu des tsunamis historiques. Alors, rien à voir avec le Japon, on n'aura pas de magnitude 9 sur ces zones-là. Mais des tsunamis historiques montrent qu'il y a quelques inondations possibles sur ces zones qui sont de plus en plus peuplées. Voilà, donc là, c'est le genre de calcul qu'on réalisera en temps réel pour avoir. Là, c'est un rejeu du tsunami de 2003. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un séisme en Algérie où les Baléares ont été assez fortement touchés. Heureusement que des dégâts matériels, mais ça n'était qu'une magnitude 6,8 pour ce séisme-là à Boumerdès. Voilà, donc pour compléter ce qu'a dit Rolando tout à l'heure, effectivement, moi je souhaite vraiment mettre l'accent sur le besoin de recul historique et de la connaissance sismotectonique qui est évidemment complémentaire. Et la connaissance de la magnitude au démarrage qui a été pour les Japonais certainement très handicapant sur cet événement-là. Tout cela passant bien sûr par une éducation accrue des populations à ce que veut dire une alerte, ce que veut dire une sirène qui sonne sur une plage ou sur une zone touristique. Voilà, je vous remercie.
C'était Hélène Hébert, géophysicienne et spécialiste en simulation des tsunamis. Elle dressait les premiers constats du tsunami à Fukushima au Japon en mars 2011. Vous avez également entendu au cours de cette conférence du Bureau des Longitudes Rolando Armijo, sismologue à l'Institut de physique du globe de Paris. Restez à l'écoute de nos retransmissions et téléchargez dès maintenant les autres conférences du Bureau des Longitudes. Elles sont disponibles sur le site de Canal Académie dans les émissions En colloque, rubrique Science. Les conférences du Bureau des longitudes sont également ouvertes au public. Pour connaître les prochaines dates, vous pouvez vous connecter sur leur site www.bureau-des-longitudes.fr. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions. Thank you.